Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 9e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux textes de Romane Biron. Née en 1979 à Grenoble, Romane Biron vit désormais à Périgueux où elle exerce la profession de formatrice. Elle est une autrice de poésie et de romans contemporains. Elle a publié à ce jour « Le diable en pantoufles » aux éditions Maelstrom et « Les étoiles finiront par parler » aux éditions Parole. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux extraits de romans à paraître, « Un brouillon de papa » et « La bleue de midi ». Éléonore, ma petite, tu sais, ton prénom vaut de l'or. Dès que tu as ouvert les yeux, il m'est apparu. Éléonore. Maintenant, le matin, je ne veux plus les ouvrir, les yeux. Parce que les seuls yeux que je peux contempler, ce sont les miens. Les miens dans le miroir de la salle de bain. Des années durant, chaque nuit, j'ai attendu que tes yeux se ferment enfin pour sombrer dans le sommeil. Des années durant, j'ai guetté le moment où tes yeux s'entr'ouvriraient. Je ne peux plus rien faire sans tes yeux. Il suffisait de tes petits yeux noisettes sur moi et je savais tout faire. Fabriquer un arc à flèches avec une branche. Remplir la baignoire de marron pour te donner un bain marrant. Arriver à l'école presque à l'heure et le soir ne pas t'oublier à la sortie. Tu as fait de moi un papa presque comme les autres. J'avais la tête de travers, comme tu disais, les lacets et les cheveux défaits, les lundis mélangés avec les mardis et les vendredis. Peut-être bien, mais dès que tu me voyais, tu ouvrais l'espace de tes bras aussi grand que je pouvais presque y loger. Je t'ai emmené dès tes premiers jours dans la forêt, puis je t'ai mis sur mes épaules, et tu attrapais tout ce qui brillait. Éléonore. Pour moi, il y avait une seule chose qui brillait, tes cheveux. Parfois, je m'amusais à en cueillir un pour recoudre mon pull troué. Amarré sur mes épaules, agrippant mes cheveux, tu restais sans bouger pour guetter le renard ou suivre les pas du loup qui n'existe pas. Quand on rentrait de la forêt, il était tard. Tu t'étais assoupi dans mes bras. Ta maman sortait sur le perron. Je m'inquiétais. Il est tard. Elle n'a rien dans le ventre, la petite. J'oubliais de te nourrir. C'est à cause du temps. Quand je suis dehors avec toi, il me glisse entre les doigts et peut-être qu'à force de rire, de courir et de grimper, la faim s'en est allée. C'est la faute au renard qu'on guette à travers bois et qui ne vient pas. C'est la faute aux arbres, à leurs cimes qui n'en finissent pas de grandir, comme toi, et ce rêve d'atteindre ensemble la canopée. La faute à la nature, d'avoir créé cette foule d'arbres qui se ressemblent et ne se ressemblent pas. Je ne suis plus retourné dans la forêt sans toi. Je ne suis plus retourné dans la forêt. Et j'oublie de manger. Chaque bouchée m'est trop pénible. Je me sens comme un soufflet raté. Le procès est perdu, m'a dit mon avocat. Et c'est toi que j'ai perdu. Éléonore, aujourd'hui, samedi, est un jour qui se lève un peu ému. Il neige de timides flocons. Aujourd'hui, je vais te retrouver dans un lieu neutre, blanc, neige, ni bien ni mal, neutre. Je suis là à l'heure pile. Je me suis acheté une montre pour l'occasion, au cas où on me volerait le temps avec toi. Pour la première fois de ma vie, j'attends, car je suis trop à l'heure. Je vérifie sur ma montre, et ça a l'air vrai. Les aiguilles n'ont pas encore percé les 14 heures pile. Je vais entrer dans ce lieu. C'est un lieu de rencontre parents-enfants. C'est écrit en lettres capitales, sérieuses et dignes. Des parents et des enfants qui se sont perdus de vue, en somme. Moi, je crois que c'est plutôt le lieu des papas qui sont recalés en amour. Ça se voit au-dessus de leur tête. Le ciel semble chargé de nuages, et leur pas est lourd. Ils oscillent d'un pied sur l'autre ou font les 400 pas. On dirait la maison des papas oubliés qui attendent d'être pris dans les bras et emportés pour jouer. Ils font plein de sourires pour être adoptés. Je les regarde, je me regarde comme je peux. Il y a les papas un peu fous et les papas un peu flous. Les papas un peu fous hurlent trop l'amour et le reste. Les papas un peu flous ont oublié de dessiner leurs contours. Peut-être qu'ils ont grandi trop vite dans des costumes de papas beaucoup trop grands pour eux. Il y a les papas papouilles et d'autres pas. Il y a les papas silencieux et les papas houleux. Il y a les papas fantasques et les papas bourrasques. Il y a aussi les papas venus de loin pour rien. Il y a les papas pas là et les papas vraiment là. Les papas qui sont vraiment là, parfois s'excusent d'être là. Ou peut-être qu'ils s'excusent d'être papa. Je ne sais pas dans quelle catégorie de papa je me place. Je ne suis pas vraiment un papa puisque tu n'es pas encore là. Éléonore, je suis là. Je t'attends, ma fille, à l'espace rencontre. Le papa houleux s'est installé près de moi avec son fils Théo, aux boucles brunes. Le papa me parle de la maman de Théo. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, elle, encore, elle. Il fait de grands gestes, agite de grands mots, de grands faits et méfaits. Je vous promets, cette femme est un démon, dangereuse, dérangée. Elle l'est, et bien plus encore. Des mots ombragés, bruts, de feu qui brûlent, qui suintent en S, des mots à la mesure du feu de sa déchirure. Je ne le laisse pas seul, ce papa qui parle contre la maman. Il me prend à témoin, j'acquiesce. Je prends le même air que le sien, je prends son parti, et rien que le sien, que le nôtre. La houle a rallié un papa à un autre et un autre, puis tous les papas de la clairière réunis. Je surenchéris, ils surenchérissent, j'en rajoute, ils en rajoutent. Je me surprends à fulminer avec eux contre le clan des « elle ». On se galvanise entre mâles, contre tout le mal qu'elles, elles nous font. On pourrait le croire de loin, de très loin seulement. Je le comprends, un tout petit peu, ce papa. Il y a des jours où on n'a pas rencontré un seul sourire. Le monde est contre toi, elles sont contre toi. Il y a des jours où on n'a pas rencontré un seul regard. Le monde est contre toi. Elles sont contre toi. Il y a des jours où je t'ai espéré. Il y a des jours où j'en ai voulu à tous ces matins qui ne servent plus à rien et toutes ces nuits non plus. Il y a un jour où j'ai senti ton regard sur moi, mais c'était la lune qui se cachait derrière les nuages et me faisait signe. Il y a des jours où l'ombre grise du chagrin rend aigri. Un jour, j'ai même voulu faire taire la chouette, capturer les écureuils, arrêter le frémissement de l'aube et arracher tous les arbres de la forêt vide de toi. La forêt t'est interdite à jamais. C'est le grand juge qui l'a décidé. Ce jour-là, nous avons quitté la forêt, précipitamment, de peur qu'elle t'engloutisse de nouveau. À cause des horloges, des minutes et des chutes, il a fallu bétonner ta vie et la nôtre, sans ombre, sans arbre, sans doute. À cause des peut-être et des si jamais, nous avons habité une longue tour, aussi haute qu'un séquoia. Ta maman a trouvé un dernier étage pour épouser un tant soit peu le ciel pour éprouver le vertige des cimes. La canopée, elle a dit. Je n'ai pas renoncé à faire renaître la forêt en toi, un tant soit peu. On a roulé dans ta couette comme on roulait dans l'herbe fraîche. On a campé sous les néons, comme à la belle étoile. On a ouvert toutes les fenêtres, en très grand, pour s'emplir l'âme du vent. On a escaladé les branches de l'escabeau. On a inventé des clairières secrètes. On a créé une forêt sur les murs avec des accents circonflexes. On a imité l'aube dans la cage d'escalier. On a recherché l'éclat d'une luciole dans la cave avec une lampe de poche. On a créé un firmament d'étoiles au plafond. Tu n'y as plus cru. Papa, les étoiles mentent. J'ai vacillé. Le ciel était démasqué. Peut-être je n'y ai plus cru non plus. Parce qu'un seul être vous manque, je suis devenu un arbre. C'est toi qui m'as découvert.
Maman, maman, papa, il est devenu un arbre.
Tu as mis ton oreille contre moi, comme je t'ai appris, pour prendre le pouls de l'arbre. J'avais envie de te hurler que j'étais un arbre, vivant. Rien n'est sorti. J'ai cessé d'être. Même pour toi, du matin jusqu'au soir, j'étais parti au pays où plus rien ne bouge. Du matin au soir, du soir au matin, ma peau s'était endurcie. J'avais enfoui mon cœur loin, loin sous mon écorce. J'étais découragé comme un arbre en hiver, recroquevillé, les bras ballants. Je n'avais pas de branches pour embrasser le monde, ni pour les faire danser dans le vent. Je regardais vers l'infini du matin au soir, depuis la fenêtre de ta chambre, du soir au matin, du matin au soir. Mes soupirs étaient couleur d'automne, c'était long, du soir au matin, du matin au soir, d'être un tronc allongé. Un soir, tu m'as dit que j'étais un seul pleureur. J'ai sangloté. J'ai dit que non. C'était la rosée du matin qui perlait sur mes joues. Tu m'as dit qu'on était déjà le soir et pas le matin. Saul, seul. Seul, Saul, oui. Je l'étais, si seul. Du soir au matin. Du matin au soir. Seul. Je l'étais. Sans ma terre fertile. Sans la compagnie des oiseaux. Sans le firmament des étoiles. Seul, avec mes fausses étoiles dans ma fausse forêt à gratter le ciel un tant soit peu, seul avec toi et au loin la voix de ta maman, de plus en plus lointaine, de plus en plus éteinte. J'étais un saule si seul, seul sans son étreinte, seul sans le souffle de ses nuits sur ma peau, du soir au matin. Du matin au soir, j'étais un saule seul. Est-ce qu'on enlace un arbre sans feuilles? Est-ce qu'on cajole un oiseau sans plumes? Est-ce qu'on murmure des notes d'amour à un bois sourd? Un jour, je me suis vaguement redressé. Tu m'as dit, tu es un être. Regarde ta cime, chatouille le ciel. Je t'ai cru, un tant soit peu. Tu étais là, à essayer de guérir l'arbre mort en moi. Tu as sorti ta mallette de docteur. Je t'avais dit, si tu t'en souviens bien, qu'une simple petite écorchure d'une écorce, cela vit de la sève, qu'un champignon s'y installe, que la vie peut quitter l'arbre. Tu as entouré mon écorce de bandages, de pansements et de tes petites mains. Je n'ai pas cicatrisé pour autant. Éléonore. La forêt flotte tout autour de moi. L'odeur de la terre, celle que tu m'as apportée, m'a redressée. Le souffle de l'humus m'a réanimé. Je me suis remis debout vers le ciel, tel un arbre fourmillant de vie. Vaille que vaille, je suis descendu de la tour, sans un bruit au petit jour. Vaille que vaille, je suis parti en forêt, vivre les pieds sur terre, au pied de la tour, au temps des nuages. Ma solitude est trop grande, Éléonore. Je ne peux pas rester là-haut, entre béton et bitume, au 36e étage. Les étoiles sonnaient faux. Je ne peux pas t'emmener. Ta maman a perdu sa lueur pour moi. Elle ne croit plus au printemps. Je ne suis plus l'homme vert tendre qui l'a émoustillé envers et contre tout. Je suis celui par qui l'étang s'est tu, par qui la tour grise s'est dressée et murée dans le silence. Sache que même si tu n'es pas là, tu es là. Tu es là, l'air des nuits et des jours, c'est toi. Le brouillard qui goutte sur les feuilles, c'est toi. La brise et la bise, c'est toi. Chaque quartier de lune qui grandit, c'est encore toi. Cher papa, maman m'a dit que tu as quelque part un carnet où tu parles de moi quand j'étais petite. Je voudrais bien le lire avant qu'il ne parte aux oubliettes. Je t'écris car j'ai cueilli une libellule aujourd'hui. Elle avait du mal à voler. Ses ailes étaient fanées, je crois. Ses couleurs ternes. Une fin de vie qui s'étire. À trois reprises, je l'ai recueillie. Elle a volé quelques instants de manière assurée et puis elle est tombée trois fois. J'ai eu mal. J'ai repensé à nos récoltes au hasard des chemins, lézards, libellules, feuilles et plumes. Je me suis dit qu'il était loin, le temps des libellules. Il s'est fané. J'ai du mal à venir jusqu'à ta clairière. Tu as toujours préféré ta forêt. Je reste à l'orée du bois et toi à l'abri du monde. J'aimais bien quand tu étais là, mon papa brouillon. Avec toi, l'enfance s'était gribouillée, raturée, essayée et recommencée. Je dessine une petite forêt, sans ombre, sans feuilles, sans tronc, une forêt sur le point de naître, comme mon ventre qui abrite une vie. Tu l'emmèneras, dit papa, la petite, dans les bois. Éléonore. La bleue de midi. Stanislas, peintre du ciel. Stanislas a rejoint le front de mer pour prendre un air de liberté. Les jours de marché, il s'installe dès 10 heures et dessine ceux qui veulent bien prendre place sur le tabouret. Stanislas aime la beauté des âmes fêlées. De telles âmes ne s'arrêtent pas devant lui. Les femmes qui lui adressent la parole ont souvent le visage austère, les cheveux gris dans un catogan strict, des jambes de cow-boy. Parfois, elles viennent avec leurs enfants. Les enfants se trahissent. Ils lui parlent de leurs bobos. Et il entend là où ça saigne. Et il ment à leur mère en leur fournissant un portrait aux pommettes rebondies. Quand aucune âme lisse ne s'arrête, il dessine celles qui passent devant lui. Il y a celles qui ont leur heure de passage, comme l'homme au chapeau melon de 11h30. Et la bleue aux alentours de midi. Stanislas vole leur corps à leur corps défendant. Il rend hommage à leurs traits, à leurs petites déchirures à coups de sanguine. Il évite de les regarder en face. La bleue de midi marche à petits pas. Le vent s'engouffre dans les rondeurs de son manteau. Elle baisse la tête comme un cerf au bois lourd. Campée au sol tel un rocher, le vent, même fort, ne pourrait pas la soulever. Elle passe devant lui, elle jette un coup d'œil furtif à ses dessins. Il est assis et tient sa feuille tout contre lui pour dessiner sans être deviné par elle. Elle s'éloigne et il la perd si vite. Le bleu roi de son manteau se fond dans celui du ciel qui s'étend jusqu'à lui. Il range son dessin, le reprendra un midi si ses doigts ne sont pas pris par un portrait troqué contre quelques sous. À 10 ans, quand le professeur lui a demandé ce qu'il voulait faire plus tard, Stanislas a déclaré « peintre du ciel » en levant le nez vers la fenêtre. Ils ont tous ri. Il a eu 2 jours de colle. 2 jours à laver le sol dans la salle d'études, une salle aveugle. Aucune échappée vers le ciel. Après ça, il a caché ses dessins sous son lit et il n'a plus parlé de ciel. Plus jamais. À part dans les profondeurs de la nuit, en secret, à son père qui n'est plus. Son père qui peut-être lui chuchote que le ciel est souverain, qu'il est le seul capitaine à bord. peintre de devanture, tel est maintenant le métier de Stanislas, celui qui remplit son assiette, pas son âme. Il croule sous les commandes. Chacun souhaite avoir un petit tableau de chez soi, de son extérieur propre.
Ah oui, rajoutez-moi des lilas sur la devanture, vous voulez bien ? Et là, un petit buisson bien taillé. J'ai pas eu le temps de le faire cette année.
Les clients habitent dans leur maison et veulent la mettre sous cadre. Il a proposé à une grand-mère de peindre le toit de sa maison où trônait une girouette en forme de soleil qui jouait avec le vent. Il lui a présenté l'idée avec enthousiasme, il jubilait. La grand-mère l'a regardé, le nez pincé. Elle a rejeté l'idée avec force. Il s'est retranché dans son costume de peintre de commande, peintre de maison proprette, aux lierres grimpants et au soleil luisant. Il aime les rides des maisons, leurs calvities naissantes, leurs paupières grinçantes. Il dessine ses vérités au crayon et les gommes. Parfois, il garde une légère ride ou une tuile sur le bord de l'abîme. Il laisse le lierre enliser les fenêtres jusqu'à ce qu'elles ne s'ouvrent plus. Puis, il les libère. Stanislas refuse de peindre des haies taillées qui ne le sont pas, de travestir des ruines en château pour redorer l'estime de ses habitants. Il refuse poliment d'être un peintre en bâtiment. Devant la mer, il n'y a pas de mensonge. Stanislas, le poème du ciel et du temps qu'il fait. Le lendemain, le ciel s'est chargé de nuages. La lumière se fait rare. La bleue de midi arbore un manteau gris, comme pour se fondre avec le ciel. À son cou, une écharpe légère et cotonneuse, tel un nuage. Sur ses jambes, un blue jeans qui tombe sur des chaussures couleur trottoir. Est-elle une artiste qui joue avec le bleu-gris des cieux de la ville ? Le soir, il l'imagine préparer ses vêtements en écoutant d'une oreille tendue la météo du lendemain pour élire le camailleux de son manteau. Elle porte une ombre, celle de la colombe de Magritte. Elle emprisonne un bout de ciel nuageux dans son corps. Est-ce que c'est elle qui devient nuage ou le nuage qui devient femme ? Les deux. Elle est le poème du ciel et du temps qu'il fait, sourit Stanislas. Sur un premier tableau, Stanislas la dessinerait avec de l'encre argentée, habillée de son écharpe effilée comme les longs fils de la pluie. Confinée entre ciel et terre, elle serait un rocher, dressé dans le silence et la solitude des gouttes d'eau. Ses vêtements seraient obscurcis par le manteau de la pluie. Sur le deuxième tableau, il la peindrait avec les couleurs chaudes du coucher du soleil, quasi volcanique, un tracé qui rugit, entrave le papier. Son corps bousculerait le paysage, l'anéantirait. Les arbres se courberaient sur son passage. Ce tableau, il le voit grand, un format qui dépasse tout ce qu'il a produit. L'idée de ce tableau fait trembler ses doigts. Le rouge est aussi la couleur du chalutier de Loïc, l'ennemi de feu son père. Assis face à sa toile, il guette le passage de la bleue pour capturer quelques traits. Il n'a pas prévu qu'avec le printemps cognant à la porte de la saison, les passants se font plus nombreux sur le bord de mer. Ils se hâtent pour tirer leurs portraits, trouver ce qu'il aime dans leur visage, leurs petites fissures. La bleue passe trop vite en coup de vent. Il s'embrouille, il s'en mêle les pinceaux. Il dessine un peu d'elle dans chacun des portraits demandés. Certains s'étonnent d'avoir des yeux plus bleus qu'ils ne l'avaient imaginé. Il leur dit que la lumière du ciel l'éblouit. Il se surprend, le soir, à écouter la météo et à prévoir la couleur qu'elle portera. Comment elle s'accommodera du temps ? Sur les portraits, il oublie parfois de dessiner le visage, surpris par la tonalité changeante du ciel. Il rentre chez lui, sa pochette de dessin sous le bras. Il se dit que ce tableau ne peut se faire sans elle. Il lui faut aller vers elle, la surprendre. Tout au moins, lui parler, l'aborder, la voir en face à face, sans que les gens agglutinés autour de lui ne la lui cachent. Le lendemain, sur la place, dès que l'homme au chapeau de 11h30 est passé, il change son prix pour avoir la paix. Dès qu'ils le voient, les passants s'éloignent, mi-médusés, mi-horrifiés. Un seul passant s'arrête tout de même et lui tend un billet de 50 euros, lui parle dans un français où pointe un léger accent, pose sa canne, s'assoit sur le tabouret et le fixe. À son tour, Stanislas est médusé. Il dessine tout en surveillant le soleil qui s'approche à grands pas de midi. Quand la bleue s'arrête devant lui, il soulève son crayon de bois pour arrêter son trait. Contre toute attente, il se lève, il lui touche l'épaule pour l'aborder le crayon à la main. « Mademoiselle, je vous observe depuis quelque temps. J'aime votre façon de vous fondre dans la masse, de composer, d'être ton sur ton. J'aimerais vous dessiner, non, pas au crayon de bois, mais au crayon gras. Je vous dessinerai sur un tableau très grand, pas un petit cadre comme celui-ci. Vous avez besoin de place, c'est certain. » Les joues de la bleue se teintent d'un rouge qui tranche avec la candeur de son teint. Stanislas voit déjà son deuxième tableau, un brin de fureur en plus. Le type assis sur son tabouret se lève d'un bond. « Pourquoi un tableau si grand? C'est vrai, madame n'est pas si grosse. »« Mademoiselle, vous êtes charmante et... »« Comme ça, vous essayez de vous rattraper? Vous venez de dire juste avant à madame qu'elle était un ton. »« Je n'ai pas dit cela. Je vous disais, mademoiselle, que j'ai vu en vous un paysage. » Votre manteau se fond dans le ciel, ton sur ton. Ah, voilà, vous recommencez! La jeune femme se recule, gênée, d'une voix fluette, presque suppliante, elle chuchote. Taisez-vous! Stanislas poursuit. Regardez ce ciel, vous êtes une partition. La musique de vos yeux se fond au bleu de l'horizon. La lumière, regardez, mademoiselle. Arrêtez-vous, je vous en prie. Il finit par se taire. Le monsieur à la canne l'empoigne, l'empêchant de courir après elle. Il a de toute manière les jambes coupées. La bleue l'a anéanti. Toute sa vie, il a poursuivi la beauté des ciels. Depuis, le matin jusqu'au soir, il la traque dans ses nuances sans oser la peindre, bien sûr. Enfin, quelqu'un d'autre existe sur cette terre qui a les yeux rivés vers le ciel. Stanislas, bleu à l'âme. Il rentre et dessine des corps bleus jusqu'à haïr cette couleur. Et puis, à marée basse, il obstrue le haut des fenêtres de sa maison pour ne plus voir le ciel et la mer. Il jette tout le bleu de son intérieur, ses draps, la nappe, le bleu de ses palettes, la pastille bleue du robinet d'eau froide, ses gitanes, ses jeans et ses bleus à l'âme. Le lendemain, il s'assoit par terre face au front de mer, et il ne dessine plus que des chaussures et des jambes pour ne plus avoir à lever la tête vers le ciel. Les jambes de la bleue sont sans doute passées, parfois seules, parfois accompagnées d'autres paires de jambes. À travers les paires de jambes, il ne peut s'empêcher d'apercevoir les flots. La mer est bleue comme un mensonge. Même sans vagues, la mer lui faisait un sang d'encre. Petit, il se souvient de la main de sa mère dans la sienne à attendre face au flot, à attendre que les chalutiers reviennent du large. La main de sa mère dans la sienne, douce et puis plus pressante, quand les minutes s'égrènent et que le chalutier de son père tarde à revenir. Ces minutes-là, il aurait bien jeté la mère. Vous venez d'entendre des extraits de « Un brouillon de papa » et « La bleue de midi » de Romane Biron, roman encore à paraître. Pour illustrer « La bleue de midi », Romane est à la recherche d'un illustrateur amoureux du bleu. L'appel est donc lancé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le Coin Lecture est aussi votre émission. Si vous êtes autrice ou auteur de texte que vous aimeriez entendre lire à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander des autrices ou auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibre@gmail.com, radio et libre étant au pluriel, ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.